C'est toujours un plaisir pour moi d'apporter la parole de Dieu chaque fois que l'opportunité m'est donnée. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre des Psaumes de David. Et le thème de ce message ce matin, c'est une vie animée d'un profond désir de voir la gloire de Dieu. Une vie animée d'un profond désir de voir la gloire de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Psaume 8. Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous tes pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. David, dans la plupart de ses psaumes, nous conduit dans les profondeurs avec Dieu. Il nous conduit dans une intimité profonde avec Dieu, où l'homme pécheur que nous sommes rencontre le Dieu vivant, le Dieu saint, qui lui révèle sa personnalité. Qu'est-ce que l'homme? Bien-aimé, quelle est la dernière fois que tu as ressenti un désir profond de voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta marche avec Jésus-Christ? Quelle est la dernière fois où tu as expérimenté Dieu d'une manière profonde, d'une manière intime, que tu t'es senti perdu dans l'adoration, de telle sorte que les seules paroles qui sortaient de ta bouche n'étaient que les attributs de Dieu créateur, majestueux, le roi des rois, le créateur de l'univers? David ici devait se retrouver sur une montagne où il a commencé à réfléchir sur la gloire de Dieu, sur une colline élevée, dans un calme absolu. En effet, bien-aimé, ce n'est pas dans le bruit qu'on peut expérimenter la présence de Dieu. Je sais beaucoup croire que c'est quand il y a des bruits, quand l'entourage, quand on est environné des gens, qu'on peut avoir la gloire de Dieu. Peut-être dans une église, quand les gens vont élever leur voix, tous ensemble pour crier peut-être à un Dieu qu'on ne connaît même pas, qu'on est dans la présence de Dieu. Je voudrais ici confesser, mes bien-aimés, que nous vivons dans un monde mouvementé où nous sommes plongés dans plusieurs activités qui prennent presque la totalité de notre temps, au point que nous n'avons plus de temps pour contempler et adorer le Dieu vivant, pour avoir un moment intime avec lui. Si nous n'avons pas de temps, bien-aimés, pour découvrir qui nous sommes en réalité, comment pouvons-nous contempler la grandeur de ce Dieu créateur qui nous a sauvés et qui nous a donné son Fils, Jésus-Christ? Bien-aimés, il y a de cela quelques années, et je crois qu'il n'y a que cette année 2017, que nous ne sommes pas partis. Nous ne sommes pas retirés avec ma famille. Nous avons l'habitude de nous retirer pour une retraite spirituelle, familiale, de 3 à 5 jours dans les montagnes de Pocono. En réalité, bien-aimé, pour ceux qui connaissent les montagnes de Pocono, quand tu es là-bas, les arbres, les animaux des champs, les oiseaux, plongés dans cette forêt où se trouve cette maison que nous avons toujours utilisée pour cette retraite spirituelle. Bien-aimé, spécialement à la fin de la soirée, quand je me tenais à la véranda de cette maison de retraite, et je me mets à contempler la vie, la forêt, à regarder le ciel, le soleil qui se couche avec ses rayons. Bien-aimé, derrière les arbres de cette forêt, je vois la grandeur d'un Dieu créateur qui fait toutes choses bonnes en son temps, qui maîtrise l'univers. La plupart d'entre nous, bien-aimés, restent trop occupés dans les divertissements, à la recherche du plaisir. Pas de temps pour réfléchir sur la majesté de Dieu créateur, sur sa grandeur impressionnante, sur son monde, sur tout, notre sort à l'intérieur de tout ceci. Où est-ce que nous allons? Que nous réserve le lendemain? Est-ce que Jésus est au centre de notre vie? Est-ce que nous avons cette confiance que si la mort venait maintenant là, nous serons avec Dieu sans discussion? Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la vie et se disent que est-ce que tu es sûr de... Encore le pose la question de savoir si tu es sûr de rencontrer Jésus aujourd'hui, si tu meurs, si tu mourrais. Ils vont dire que peut-être que je ne sais pas. Bien-aimé, la question est ceci. Est-ce que tu as rencontré ce Dieu vivant et véritable qui donne la vie, qui donne, qui révèle sa gloire à ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère? Bien-aimé, nous ne devons pas dire que nous sommes trop occupés pour abandonner, pour ne pas chercher Dieu. D'abord, personnellement, ce n'est pas à l'église seulement que nous pouvons le rencontrer, mais un temps personnel, un temps intime avec lui. En quoi consiste la vie, bien-aimé? Si vous commencez à poursuivre le but de la vie sans réfléchir au Dieu créateur, vous finirez par tomber dans le désespoir. Si vous croyez que c'est en vous levant le matin à 6 heures, travailler 24 heures sur 24, sans avoir un temps de repos, peut-être pour trouver le bonheur, bien-aimé, vous allez tomber dans le désespoir. Parce que ce n'est pas seulement dans ces choses-là que nous pouvons avoir la garantie de notre lendemain. Notre lendemain est garanti en Jésus-Christ seul, parce que c'est lui qui décide. Bien-aimé, nous pouvons, tu peux sortir, tu dis que non, pasteur Théodore, je vais chercher l'argent pour payer mes billes, pour faire ceci, peut-être pour bâtir mon avenir, l'avenir de mes enfants. Et tu comptes, tu crois que ce n'est pas tes propres forces que tu peux amasser autant d'argent. Bien-aimé, Dieu peut décider de t'appeler aujourd'hui. Et tout ce que tu aurais accumulé, ça va revenir à qui? Bien-aimés, si nous commençons à poursuivre le but de la vie sans réaliser la signification de l'homme dans le monde, vous finirez par tomber dans le désespoir. Si vous essayez de vivre votre vie sans vous soumettre au Dieu créateur éternel, vous finirez par tomber dans le désespoir. Si nous comprenons vraiment où nous nous situons dans le plan de Dieu pour nous, bien-aimés, nous devons d'abord croire que c'est le Dieu souverain qui donne un sens et une signification à notre vie. Ce n'est pas ta situation matérielle, ce n'est pas tout ce que tu as amassé dans ton compte bancaire, ce n'est pas les diplômes que tu as, ce n'est pas les licences que tu as. Bien-aimés, remarquons comment David contemple son Dieu, le Dieu créateur. Il est éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Bien-aimés, parfois nous ne savons pas adorer Dieu. Quand nous venons à l'église, c'est le culte d'adoration. Nous venons adorer Dieu. Et la plus grande partie, bien-aimés, de notre culte le dimanche, c'est cette partie d'adoration que les chants nous conduisent à chanter des louanges à l'Éternel, à élever nos mains pour chanter cette magnificence. Et parfois, bien-aimés, si nous restons insensibles pendant cette partie d'adoration, peut-être nous restons assis. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Peut-être on peut être malade pour rester assis. Mais je ne comprends pas, bien-aimés, que si nous le connaissons réellement, pendant que nous adorons ces 30 minutes ou 25 minutes que nous chantons des louanges à l'Éternel, je me dis que si nous pouvons nous mettre à la place de David, nous allons commencer à oublier toutes choses, à élever nos mains, à regarder dans nos cœurs ce Dieu créateur, ce Dieu qui te donne la vie chaque jour, ce Dieu qui pourvoit à tes besoins. Tu dois seulement peut-être ouvrir les yeux, parfois commencer même à pleurer. Dis, Seigneur, je ne mérite pas. Je ne mérite pas toutes ces grâces. Parce que pendant que nous l'adorons, pendant que nous nous occupons de Dieu, pendant que nous nous soucions de son œuvre, bien-aimé, il prend soin de nous. Il est fidèle. Il ne déçoit jamais. Mais combien de fois nous reconnaissons cette grandeur? Éternel notre Seigneur, remarquons où cette compréhension de la vie commence et se termine. Cette compréhension de la vie commence et se termine par une confession de la grandeur incomparable de Dieu créateur. Jésus-Christ, éternel notre Seigneur. Ce n'est pas une référence, bien-aimé, à une divinité impersonnelle qui est généralisée de tel point qu'il devient vide de sens. Le nom de Jésus, parcourait dans les bus, en route, dans les voies où les gens même ne connaissent même pas ce Dieu. Quand quelque chose les arrive, la première des choses, oh my gosh, oh mon Dieu, quel Dieu! Est-ce que tu connais ce Dieu que tu confesses? Même celui-là qui se moque de Dieu, celui-là qui rejette Dieu, quand quelque chose de terrible lui arrive, la première phrase qui sort de sa bouche, c'est « Oh my gosh », comme ils disent. Et comme je n'aime même pas trop utiliser cela, c'est un Dieu que tu ne connais pas. Mais David ici parle d'un Dieu personnel. Éternel notre Dieu. C'est un Dieu créateur. Il connaît ce Dieu. Il a une relation avec ce Dieu. Bien aimé, la question que nous devons nous poser, c'est de savoir quelle est la profondeur de ta relation avec Dieu. Ce n'est pas à moi, pasteur, de dire que non, je peux me tromper. Ton pasteur peut se tromper. Oh, regarde comment la sœur s'y est zélée. Regarde comment le frère s'y est zélé. Mais dans tes moments privés, quand tu es seul, dans ta maison, est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu l'adores? Mais je voudrais confesser que parfois nous n'avons même pas prié. Ne fais pas l'erreur, peut-être, dans les groupes de prière, de demander à quelqu'un d'élever sa voix. Je me suis rendu compte que quand je venais d'arriver dans ce pays, j'aimais demander aux gens de prier. Mais dans l'une de mes cellules de prière, alors j'aimais demander aux gens de prier. Et la semaine-là, j'ai demandé à une sœur de prier. Cette sœur a mangé la bouche. Elle ne savait pas. Je l'avais embarrassée. Et puis la semaine qui suivait, deux semaines après, la personne n'est pas venue. J'ai demandé, mais pourquoi cette sœur n'est pas venue? Elle dit, non, elle n'est pas venue parce qu'elle a peur que tu vas encore lui demander d'élever sa voix et prier. Voilà notre vie chrétienne de chaque jour, bien-aimée. Je sais que nous n'avons pas besoin qu'on nous dise d'adorer Dieu si nous le connaissons réellement. Nous n'avons pas besoin que les gens disent, voilà, c'est le moment d'élever ta main. Nous n'avons pas besoin de dire, comme dans certaines églises, oh, claquez les mains, oh, faites ceci pour la gloire de Dieu. Non, si nous avons une relation personnelle avec Dieu, ce Dieu, par son Saint-Esprit, va nous donner la grâce Bien-aimés, de regarder pendant que nous chantons, de méditer sur la profondeur, l'explication de ce chant. Le Dieu créateur, ce Dieu qui a été crucifié à la croix pour toi, est-ce que tu médites, est-ce que tu regardes, ouvre tes yeux spirituels, regarde Jésus en train de mourir sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimés, tu ne devais pas rester indifférent. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre adoration. Mais je bénis le Seigneur parce que parfois quand nous adorons dans cette église, il y a quand même quelques personnes, tu peux regarder dans leurs yeux. Tu vois que non, ces gens, ils élèvent leurs mains parce qu'ils connaissent d'où Dieu les a fait sortir. Quand je regarde, bien-aimés, là où Dieu m'a fait sortir, en Afrique, du fin fond du village, dans la forêt, et m'a mené dans ce pays. Bien-aimé, en réalité, je ne suis pas tellement peut-être fan de ceux-là qui disent que non, après les États-Unis, c'est le paradis. Non, parce que ce Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est partout. C'est le même Dieu en Afrique. C'est le même Dieu dans des forêts, en Inde, partout. Il est le même. Ce n'est pas les États-Unis qui prouvent que non, Dieu est tellement présent ici. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a beaucoup de forces du mal tout autour de nous. Mais dans certains fins fonds du village en Afrique, quand vous entrez pour apporter l'évangile, vous voyez comment le chef de village dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous vous apportons la bonne nouvelle. Il va taper le tam-tam et tous les villageois vont sortir parce qu'ils ont soif. Ils ont soif de ce Dieu vivant. Ce Dieu qui est sensible à leurs problèmes. Ce Dieu qui est le seul à résoudre leurs problèmes. Parce qu'ils sont désespérés. Ils savent que s'il y a la maladie, les attrape. Il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Il n'y a même pas de médecin dans le village. Ils savent que tout ce qu'ils peuvent regarder, c'est Dieu, le Dieu créateur, qui est capable d'intervenir. Mais parfois, bien-aimés, Dieu nous a tout donné dans ce pays. C'est pour ça que parfois, les gens s'en foutent de Dieu. Et c'est que chaque semaine, il y a son paycheck qui va tomber. Je me soucie de quoi? D'autres ont même confessé, « Pasteur, regarde, Dieu nous a tout donné dans ce pays. Si je meurs maintenant là, les enfants de mes enfants auront de quoi vivre dont je n'ai pas besoin de ton Dieu. » Quelle erreur! Quelle erreur, bien-aimé! Ce Dieu, nous devons le prendre au sérieux, comme David. David n'était pas dans l'abondance, toujours. David n'était pas toujours en paix. Il était poursuivi par ses ennemis. Et il se référait toujours à ce Dieu créateur, ce Dieu puissant, qui pouvait le défendre, qui pouvait le protéger. Les cieux bien-aimés sont représentés comme un immense piédestal sur lequel sont exposées la gloire et la splendeur du roi divin. Ainsi, à la fois en référence à la terre et aux cieux, c'est-à-dire le cosmos entier, créé à la gloire et la majesté de Jésus-Christ. Alors c'est cela qu'il énonce dans ce psaume. Nous souffrons d'un grand problème dans ce pays et même dans le monde. Nous avons perdu une vision convaincante de la majesté et de la gloire universelle de Dieu parce que nous sommes superficiels dans notre intimité avec Dieu. Nous sommes si loin de voir la gloire de Dieu que jour après jour, nous contentons des fausses visions de qui est réellement ce Dieu vivant qui nous a sauvés. Parce que nous avons perdu une vision convaincante de la majesté et de la gloire universelle de Dieu créateur. Nous n'avons rien de glorieux auquel nous pouvons inviter les autres à découvrir. En tant que chrétien, qu'est-ce que les autres peuvent envier de toi? Est-ce que les gens peuvent te voir que non, cet homme-ci est toujours positif? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous vivons dans un monde où rien n'est certain. Regardons même notre pays. On dit que le gouvernement n'aura plus d'argent pour pouvoir payer ses employés. Les gens sont là, ils se dérangent, d'autres crient, d'autres ne dorment pas. Mais toi, si tu connais qui est ton Dieu, tu dois savoir que ta vie ne dépend pas du gouvernement shutdown, comme on dit. Mais ta vie dépend de Christ, qui est au-delà de toutes ces choses. Et cela va t'amener plutôt, pas à t'inquiéter, mais à dire, Seigneur, merci, parce que je sais que j'ai de l'argent ou pas. Je sais que tu prendras soin de moi. Alléluia. Je sais que tu prendras soin de moi, parce que tu le connais. Ce Dieu doit être personnel. Bien-aimé, comme le psalmiste continue, il précise qu'il n'y a aucune excuse pour ceux qui ne voient et n'expérimentent pas la gloire et la majesté de Dieu. Tu n'as pas d'excuse. Il a dit que non, je n'expérimente pas ce que le pasteur est en train de dire. Je n'arrive pas. Je suis chrétien depuis 10 ans. Je suis chrétien depuis 5 ans. Mais je n'arrive pas à adorer comme il le faut. Bien-aimé, si tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi de vivre ta gloire, et que tu es ouvert dans les Écritures, dans la méditation, que tu, quand tu lis la Bible, tu ne lis pas la Bible comme un livre de lecture, mais tu lis cela comme la parole de Dieu, comme Dieu est assis devant toi et il te parle. Bien-aimé, tu comprendras comme David que ce Dieu-là est un Dieu omniprésent, est un Dieu qui parle, qui se révèle à ceux-là qui le cherchent. Je peux imaginer David sur cette montagne. En réalité, il était dans la gloire de Dieu. Il voyait la gloire de Dieu. Nous pouvons le voir dans ses confessions, dans ce que lui, il disait, les attributs qu'il donnait à Dieu. Bien-aimé, il dit que comme, il dit, les ennemis même de Dieu et même les nôtres sont réduits au silence par les lèvres des enfants qui reconnaissent la majesté de Dieu dans son univers créé. L'ironie est que Dieu a construit une forteresse contre ses ennemis et contre nos ennemis par la confession des enfants. Les enfants sont souvent avec une foi bien-aimée simple. Ils peuvent voir la gloire de Dieu dans ce monde, alors que les adultes ont expérimenté la nature destructive progressive du péché. Nous ne pouvons pas voir cette gloire. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, nous devons être comme des petits-enfants si nous voulons voir la gloire de Dieu. Le Nouveau Testament montre que la gloire et la majesté de Dieu dans la création sont évidentes dans toute l'humanité. Mais les pécheurs choisissent de supprimer cette révélation pour pouvoir vivre en rébellion contre leur Créateur. Par conséquent, la colère de Dieu repose sur tous ceux-là qui rejettent Dieu, qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu ne veux pas voir cette gloire, tu n'as pas d'excuse. Tu ne peux pas dire que non, je n'arrive pas. Tout est là. Nous venons chaque dimanche, nous adorons Dieu. Quand nous adorons, pendant les moments d'adoration, est-ce que tu ouvres tes yeux seulement pour regarder les autres? Peut-être même te moquer dans ton cœur. Peut-être même rire dans ton cœur. Bien-aimé, comment nous vivons l'adoration dans notre église? Est-ce que pendant qu'on chante, tu chantes en méditant sur les mots? Et Dieu nous a bénis dans cette assemblée bien-aimée avec des cantiques qui touchent les cœurs de Dieu. Mais je voulais confesser ici que chaque fois, il faudra faire des tours là-bas dehors pour accueillir les gens. Mais je ne veux pas perdre cette adoration. Peut-être que je suis égoïste. Je ne veux pas perdre ce moment des chants pour adorer Dieu. Je veux être concentré. Je ne veux pas que les enfants bavardent à côté de moi. Parce que quand je chante, je médite sur ces paroles, sur les paroles des chants. Quand on parle de Jésus-Christ crucifié, je m'imagine comment cet homme était battu. Et il a accepté. Même quand il a dit, Père, si c'est ta volonté que cette coupe s'éloigne. Parce que c'était difficile pour que toi et moi, nous soyons réunis ici aujourd'hui. Bien-aimé, c'est un amour incomparable. Romains 1, verset 18 à 21 nous dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, est évident pour eux, puisque Dieu les a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Et ne lui ont pas montré la reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Bien-aimés, est-ce que vous savez que quand vous arrivez à un point où vous méprisez Dieu, Dieu essaye de se révéler à vous, vous rejetez à un certain moment. Bien-aimés, la colère de Dieu demeure et Dieu attend. C'est peut-être pourquoi Jésus a dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, 14. La vie consiste, bien-aimés, à aider les autres à voir la gloire de Dieu et la majesté de Dieu. La valeur que Dieu a investie en l'homme, c'est très important, bien-aimés. Quand je regarde les cieux, l'œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Bien-aimés, si vous pouviez vous tenir sur une colline éloignée, dans une nuit étoilée, claire, et lire le psaume de David, vous réaliserez que certaines choses n'ont pas changé depuis 3000 ans pour les croyants aujourd'hui. Dieu reste et demeure le même. David reconnaît que son Dieu est le créateur de l'univers. Il signifie qu'il est le propriétaire. C'est lui l'architecte qui a créé les cieux et la terre. C'est l'œuvre de ses mains. C'est le constructeur. Il a créé toutes choses. Il est impressionné tant par l'immensité globale des cieux et par les détails comme la lune et les étoiles. Bien-aimés, je voudrais confesser que depuis près de 3 ans, quand nous avons commencé à aller, pas à nous promener en Afrique, mais pour aller évangéliser, je me souviens parfois, peut-être la première fois quand nous sommes partis des maisons qu'on entrait, bien-aimés, et que je pouvais regarder dans les yeux de mon frère John, comment il se sentait si à l'aise. Des maisons que peut-être que certains d'entre vous, vous arrivez, vous allez peut-être commencer à mettre quelque chose dans les narines parce que ce n'est pas très, 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 très bien. Mais nous avons accepté cela pour la gloire de Dieu. Et puis les gens pouvaient me demander comment quelqu'un, un homme de plus de 60 ans vient chercher en Afrique. C'est parce que nous voulons que cette gloire de Dieu soit révélée à plusieurs. Nous avons ce fardeau. Et la meilleure place, bien-aimée, que j'ai eue à contempler la gloire de Dieu comme David, c'est chaque fois quand je suis dans l'avion, dans les airs. Il y a certains d'entre nous qui ont peur de l'avion. Mais plusieurs fois, je vais dire plus de 20 fois, dans les airs, pendant 3 ans, alors il faut un peu imaginer cette masse, cet avion, qui décolle dans les airs avec 350 personnes, parfois 450, comme le Boeing 737-77 que j'avais pris dernièrement. Bien-aimé, quand tu es là dans les cieux, tu regardes. Et parfois, quand tu regardes le ciel, on se dit que le ciel est là-bas. Il y a ce premier ciel dans les nuages que l'avion traverse et se trouve maintenant dans l'autre espace. Que veut dire que maintenant le deuxième ciel, c'est là. Et tu regardes encore en haut. C'est encore un autre endroit. Peut-être que l'avion ne peut même pas résister là-bas, bien-aimé. Tu es perdu dans les airs. Et étant là-bas, tu peux te poser beaucoup de questions. Seigneur, si quelque chose arrive, est-ce que c'est ces petits pilotes? Parfois, tu les vois, les petits, ils sont là. Deux, c'est eux qui tiennent toutes choses. Tout peut arriver, bien-aimé. Tout peut arriver là-bas. Qu'est-ce que nous partons chercher? 2 fois par an, on court. Mais parce que nous savons que la gloire de Dieu doit être révélée sur toute la terre. Et tant que Dieu nous donne le souffle de vie et que nous restons dans l'évangile qui sauve, nous allons le faire si le Seigneur nous donne les moyens. Et je me souviens d'un incident que nous avons eu. Je ne sais pas si mon frère John se souvient. Presque le dernier voyage, on rentrait nous deux. On est arrivé à Bruxelles. On a pris l'avion. L'avion a décollé bien même. Et puis, après avoir parcouru près de 30 minutes, le pilote nous dit que nous devons retourner à Bruxelles parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai regardé comment les gens étaient dans l'avion. Des gens commençaient à prier, d'autres avaient peur. J'ai regardé dans les yeux de mon frère John. Lui, il était serein. Mais moi, j'ai regardé. Et puis, je commençais à réfléchir à ma femme, mes enfants. Seigneur! Et après quelques minutes encore, le monsieur, le pilote nous dit, « Bon, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont à la fenêtre, regardez, je suis en train de vider l'essence dans l'avion parce qu'il y a un problème dont je ne peux pas atterrir avec l'essence. Je dois regarder comment l'essence tombe dans la mer. » J'ai dit, « Hey, Seigneur !» Donc, c'est tellement grave. Et après un certain temps, j'ai commencé à méditer comme David. Dis, Seigneur, que ton nom est merveilleux sur toute la terre. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de ma vie. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas parti me promener en Afrique. C'est pour ton œuvre. J'ai commencé à bénir le Seigneur, à l'adorer, à voir sa grandeur. Pour dire que même si l'essence l'a fini et que l'avion l'a arrêté en haut, Dieu était capable de porter l'avion pour que l'avion atterrisse. Pour que nous puissions sortir sains et saufs. C'est ça le Dieu que nous servons, bien-aimés. Cette confiance, cette assurance que ta vie ne t'appartient plus. Et j'ai toujours été béni parce que quand on dit adorer Dieu ou bien prier, la plupart d'entre nous n'avons pas prié. Peut-être la prière s'arrête seulement, Seigneur, donne-moi, fais ceci ou cela. Mais la foi, il y a ça 2 semaines. Quand j'ai entendu la prière de mon frère Gary, ici, j'étais là assis, je me suis mis à pleurer. Parce que dans sa prière, il ne demandait rien pour lui-même. Il priait plutôt pour les autres malades qui n'ont pas d'espoir. Seigneur, souviens-toi, guéris les malades. J'ai dit, mais regarde cet homme. Mais parce qu'il sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Bien-aimé, je pense que c'est le désir de mon cœur que je puisse arriver à ce point où je sais que je vive ou que je meurs, ma vie appartient à Jésus. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Si tu t'arrivais de mourir aujourd'hui, où seras-tu? Est-ce que Dieu va t'accueillir dans sa maison? C'est la question que je me pose chaque jour. Bien-aimé, que le désir de ton cœur soit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Alors, 1 Chronique 29, 10, c'est encore David ici. Il dit béni, à partir du verset 10. Il dit béni l'Éternel en présent. David bénit l'Éternel en présent de l'assemblée et il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu, Dieu de nos ancêtres, Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. Nous appartenons à Dieu, bien-aimé. À toi, Éternel, sont le règne, l'autorité suprême. David a fait quelque chose que nous ne faisons pas assez souvent. Il a réfléchi à l'œuvre de Dieu et il est arrivé à certaines conclusions. Quand je contemple les cieux, l'œuvre, Qu'est-ce que l'homme? La réflexion sur les cieux est suffisante, bien-aimé, pour établir la relation entre sa grandeur et notre petitesse. Regardons comment nous sommes petits devant lui. Qui sommes-nous? Ceux qui frappent la main sur la poitrine. Oh, j'ai assez amassé. Oh, j'ai un bon travail. Oh, je suis bien. Je suis né dans une bonne famille. J'ai tout ce qu'il me faut. Il faut réfléchir. Comme David. C'est Dieu, bien-aimé, qui nous soutient chaque jour. Nous dépendons totalement de lui. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents ou nous sommes plus forts que les autres. C'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. L'homme doit avoir une signification profonde pour que Dieu aient une telle pensée de lui et prennent soin de lui. Ça veut dire que nous sommes importants devant Dieu. Dieu se soucie de nous. Comme la même poule couvre ses pousseurs. C'est comme ça que Dieu, ce Dieu de l'univers qui nous a créés et qui nous a appelés à le connaître, c'est comme ça qu'il prend soin de nous. Je voulais dire ici que David se retrouvait aussi dans les moments difficiles. Vous pouvez le voir dans le psaume 35. Il est conscient de sa vulnérabilité. Il est conscient qu'il est faible sans Dieu. C'est pour ça qu'il était poursuivi par ses ennemis de toutes parts. Il dit, ô Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Parfois, tu peux croire que tu es très fort. Peut-être pas ton argent. Tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que dans ce pays, tu peux... Quelqu'un m'a dit que non, pasteur, dans notre pays, je peux tuer quelqu'un si j'ai l'argent. Je suis libre. C'est vrai. Tu peux payer pour être libre. Mais ta conscience va te poursuivre. Tu ne peux pas compter sur ton argent. Nous devons compter sur Dieu. David, il savait que ce n'est pas lui qui combat. C'est Dieu qui combat pour lui. Et il appelait Dieu au secours. Jérémie 15 nous dit ceci. Toi, tu sais tout. Éternel, souviens-toi de moi et interviens en ma faveur. Venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de la grande patience, envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. Combien de fois, dans notre orgueil, tu sais qui je suis, tu m'as touché, je veux me venger. Non, je ne vais pas laisser. Dans la patience de Dieu, Jérémie dit, Seigneur, pour Jérémie, il voulait que Dieu intervienne contre ses ennemis maintenant et là. Mais Dieu dit que c'est dans ta patience, c'est pour toi que je suis méprisé. Vous savez, en Afrique, et c'est que le soin de santé est tellement pauvre que quand les gens meurent parce qu'il n'y a pas moyen peut-être d'aller à l'hôpital, d'examiner et voir de quoi ils souffrent actuellement. Et parfois même, c'est un médicament que les gens donnent sans examiner qu'ils te tuent. Et alors, bien-aimé, quand quelqu'un meurt, on l'a tué. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Si tu es un enfant de Dieu, qui peut te tuer? Parce que Dieu dit que même les cheveux de ta tête sont comptés. Aucun de ces cheveux-là ne peut tomber sans que Dieu ne donne son accord. Bien-aimé, quand nous connaissons Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur de lendemain. Nous ne devons pas avoir peur. Peut-être que quelqu'un va nous tuer, quelqu'un va nous faire du mal, ou bien quelqu'un va prendre ta place, ou quelqu'un va te détruire. Qui? Si Dieu est ton Père, bien-aimé, tu dois être conscient, tu dois savoir que ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Je voulais nous encourager, bien-aimé, que c'est pour ça que parfois on se plaint. Et je me souviens, il y a de cela 3 ans, la première fois que nous sommes partis en Afrique avec mon frère John, j'étais tellement content. Et puis, ça faisait quand même longtemps que je ne suis pas parti au pays. Et il y a ces jus. Vous savez, dans notre pays, dans plusieurs églises, quand on croit, on dit que ne touchez pas, vous ne devez pas toucher la bière, et puis il faut boire du jus. Et il y a des pasteurs par jour qui peuvent boire même 10 litres de jus, de soda. Donc j'ai bu toutes les qualités de soda là-bas au pays. Je pense que pendant les 7-10 jours que nous avons mis au pays, je pouvais boire, parce que j'en achetais des bouteilles d'un litre et demi. Je finissais. Et à la fin, mon corps ne pouvait plus. Et gloire à Dieu, parce que lui, dans sa bonté, dans sa miséricorde, savait que si je tombais là-bas au pays, peut-être qu'on devait me tuer. Les médecins ne savaient même pas savoir de quoi je souffrais. Et ils devaient me mettre encore, peut-être, quand on est malade au pays, il y a le glucosé qu'on met toujours. Et c'est le sucre qu'on met dans le corps pour dire que c'est pour remonter. C'est là-bas en vrac. Peut-être s'il est tombé au pays, c'est ça qu'on devait me mettre dans le corps. Et avec l'excès de sucre, imaginez ce qui devait arriver. La mort. Et puis certains devaient dire, oh, voilà le jeune pasteur là qui est venu aux États-Unis. Maintenant, il est revenu au pays et puis on l'a tué. Mensonge du diable. Parce que quand tu mets ta confiance en Dieu, il veille sur toi. Et je voulais confesser que quand je suis arrivé ici, le dimanche, je faisais les efforts pour venir. Je me suis habillé, mais j'étais devenu pâle, maigre. Et je suis venu m'asseoir ici. C'est ma femme qui est venue dire à John que non, mon mari là ne va pas. Encourage-le. Je suis parti. Je ne voulais pas. Je suis parti me coucher là-bas, sur mon salon. Et après, on m'a amené à l'hôpital. Gloire à Dieu encore pour les médecins, pour ce pays avec la capacité de prendre soin. Alors, il y avait 6 médecins sur moi. Mais je voulais confesser, bien-aimé, j'étais mourant. Au point où je commençais à voir la gloire de Dieu. Je dis, Seigneur, je suis arrivé à un point où je dis, Seigneur, si tu veux me prendre maintenant, ok, prends soin de ma femme, tu prends soin de mes enfants, et puis je veux aller avec toi. Mais tu sais aussi que nous venons de l'Afrique, et ces gens-là ont besoin de l'évangile. Nous devons partir là-bas. Mais toutefois, ta volonté, pas la mienne. Je suis resté là-bas, il y avait 6 médecins sur moi. Je pouvais parler, j'étais conscient. Il y a un médecin qui a demandé que, avec tous les paramètres de ton corps là sont bouleversés, et on se demande pourquoi tu n'es pas dans le coma. J'ai dit dans mon cœur, mon Dieu est celui-là qui me soutient. Et on a découvert que mon taux de diabète était de 900. Essayez un peu d'imaginer, 900. Le médecin a dit que non, tu ne pouvais pas vivre, tu devais être dans le coma. J'ai dit, Seigneur, et je te donne la gloire. Parce que c'est toi qui me donnes la vie. Ce n'est pas le médecin là qui me donne la vie. Et on a commencé à me soigner. Après, j'ai dit, Seigneur, tu nous as aussi donné la sagesse de prendre soin de notre corps. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé à être conscient que non, je ne dois pas manger n'importe quoi. Et j'ai dit, depuis ce temps, soda, sucre, tu es barré de mon vocabulaire. Et on disait que bon voilà, tu es diabétique. Je disais que non, je ne suis pas diabétique. Seigneur, tu ne peux pas laisser que je sois. Et après quelques mois, je suis parti, on a dit que hey, vraiment ton corps est devenu normal. Donc tu n'es pas diabétique, mais tu dois seulement prendre précaution. J'ai dit, Seigneur, c'est encore toi. Bien-aimé, l'Éternel notre Dieu, son nom est magnifique. Quand nous le connaissons, nous devons être confiants que c'est lui qui nous tient entre ses mains. La gestion royale, le dernier point ici, bien aimé, la gestion royale déléguée à l'homme, versets 5 à 8. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Le Nouveau Testament, bien-aimé, nous offre une interprétation de ces versets dans Hébreux 2 que nous avons lu ce matin ici. Ce n'est pas aux anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons ici. Alors, Hébreux 2 que nous avons lu ce matin dit ceci à partir du verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes ces choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fut soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes ces choses lui soient soumises. L'auteur d'Hébreux reconnaît que l'intention de Dieu était que toutes les choses dans le monde créé soient soumises à la domination de l'homme et que Dieu a couronné de gloire et d'honneur. Et c'est ainsi que le psalmiste et l'écrivain d'Hébreux ont compris Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Cependant, le verset 8 d'Hébreux 2 reconnaît que quelque chose ne va pas là-bas. Pourtant, à l'heure actuelle, nous ne voyons pas tout ce qui est soumis à l'homme. L'homme n'a pas réussi, bien-aimé, à gouverner comme Dieu l'avait prévu. Bien que si le psalmiste et l'auteur d'Hébreux n'expliquent pas en profondeur, nous savons que par la chute de l'homme, nous avons tout perdu le règne. Et gloire soit rendue à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ, qui est venu comme l'homme parfait, sans péché, porter sur lui nos péchés, mourir à notre place, pour que par lui, nous puissions connaître la rédemption, pour que par lui, nous puissions vivre éternellement, même si nous mourons. En lui, nous vivons éternellement. C'est pour ça, bien-aimé, qu'en tant qu'enfant de Dieu, et comme Paul l'a confessé, que veut dire mourir ou vivre pour nous? Parce que nous savons que un enfant de Dieu ne meurt pas. Nous passons d'une vie à l'autre, dans la gloire de Dieu. Nous passons dans sa présence. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu devait chercher à vivre cette gloire de Dieu. Parce que ce que David vit, c'est pas le temps qu'il a passé sur cette montagne pour contempler la gloire de Dieu. Bien-aimé, quelle est la dernière fois que même dans ta maison, ou même à l'église, tu as senti que la maison était remplie de sa gloire? Parfois, je sais que nous sommes en ville, ici, il y a tellement de bruit, les sirènes qui passent. Mais j'ai eu le meilleur moment que j'ai eu à passer. Généralement, les mercredis, tous les mercredis, nous, disons mon épouse et moi, nous ne prenons pas le déjeuner, nous ne prenons pas le lunch. On mange une seule fois pour nous de chercher Dieu dans les Écritures. Et parfois je sors ce matin, le mercredi, je m'assois là au bureau, je me plonge dans les Écritures, je lis, je fais des choses. Et parfois j'oublie même que j'ai soif et que je devais manger. Parfois je me rends compte qu'il est déjà 17h, je dis, hey, depuis le matin, parce que je ne veux pas quitter. Je vois quelque chose, je découvre quelque chose dans la parole de Dieu. Bien-aimé, ce que je voudrais nous encourager tous ce matin, tu peux vivre la gloire de Dieu. Tu peux vivre ces moments de gloire que David nous révèle dans le psaume 8. Tu peux vivre ce moment où Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu contemples la gloire de l'Éternel, que tu regardes les cieux, tu regardes les étoiles, tu regardes ce qui se passe tout autour de toi. Bien-aimé, il y a beaucoup d'évidence que Dieu m'a fait voir, peut-être pendant mes voyages. Dernièrement, quand je suis parti au Cameroun, alors vous savez que quand on est dans la journée ici, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la nuit. Alors il y a un vol que j'ai découvert qui quitte l'Afrique et arrive ici sans passer par l'Europe. Éthiopien, j'ai pris ce vol africain qui quitte l'Afrique et puis on arrive ici le même jour. Parce que pour aller en Afrique, il faut 2 jours. Alors ce vol quitte le Togo et puis arrive aux États-Unis le même jour. Je quitte le matin à Yaoundé à 8h30 et puis à 19h, je suis à Newark. Alors j'étais assis et j'ai regardé. Pendant qu'on avançait maintenant pour traverser l'Atlantique, bien-aimé, j'ai vu quelque chose. Dieu a ouvert mes yeux. J'ai regardé que pendant que l'avion avançait, devant moi, il y avait le soleil. Mais derrière moi, c'était la nuit, tout était sombre. J'ai dit, mais Seigneur, regarde, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai vu, Seigneur, c'est la grandeur de Dieu. Comment se fait-il qu'on peut être en train d'avancer? Tu entres là-bas, c'est le jour, le soleil est devant toi. Et derrière toi, quand tu regardes, c'est la lune. Tout est noir derrière. Parce qu'il faisait nuit en Afrique. Pendant qu'on arrivait ici, il était peut-être 1h du matin en Afrique. La gloire de Dieu, bien-aimé. Dieu nous révèle qu'il est Dieu. Il est au contrôle du temps. Il est au contrôle de l'univers. Bien-aimé, pour conclure ce matin, tout comme nous avons perdu une vision convaincante de la majesté et de la gloire universelle de Dieu et un sens de la signification humaine, nous avons perdu la conviction d'une intendance royale donnée par Dieu. Nous devions dominer sur toutes choses. Mais c'est comme si c'est les choses qui dominent sur nous, parfois. Mais seul Jésus-Christ peut nous donner les yeux pour voir la majesté et la gloire de Dieu. Seul Jésus-Christ peut restaurer en nous un sens de la signification divinement investie. Seul Jésus-Christ peut nous sortir de la vie de superficialité et nous réinvestir dans une vie victorieuse où nous pouvons vivre dans la gloire, pour la gloire de Dieu, avec le seul but de le glorifier en tout temps et en tout lieu. Ma prière ce matin, bien-aimé, ma prière personnelle et ma prière pour toi ce matin, c'est celle-ci. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire dans chaque domaine de ma vie. Seigneur, que mon entourage voit la gloire de Dieu en moi et que leurs yeux s'ouvrent pour voir ton Fils assis sur le trône glorieux. Si tel est le désir de ton cœur ce matin, bien-aimé, de voir la gloire et la splendeur de Dieu, tu peux crier à lui, tu peux parler dans ton cœur. Viens à Jésus maintenant. Il t'aime. Il désire te restaurer. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, ce matin, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, à tes enfants assis dans cette église ce matin. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, une nouvelle façon de comprendre l'adoration, de comprendre ce que nous venons faire, Seigneur, chaque dimanche matin dans cette église. Seigneur, parfois, nous sommes plongés par nos difficultés de la vie et que nous ne trouvons pas, roi des gloires, la nécessité de t'adorer, de reconnaître ta grandeur, de reconnaître ta puissance. Seigneur, je sais, à cause du péché, merci pour la grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Je prie que ce matin, Seigneur, s'il y a deux, trois qui désirent voir ta gloire, Seigneur, je prie que tu te révèles. Peut-être ceux-là, roi des gloires, qui ont besoin de reconnaître ce que ton Fils a fait sur la croix pour eux. Je prie, Père Céleste, que tu leur parles et que notre façon d'adorer dans cette église des chants, Seigneur, où nous connaissons pourquoi nous adorons, que nous adorons ce Dieu que nous connaissons personnellement, pas un Dieu collectif, mais un Dieu que chacun, Seigneur, connaît dans sa relation vitale. Que ton nom soit béni, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.